Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Comme chaque matin, les grands débats du matin, 8h49 avec nous pour en parler Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Thierry Guerrier, 0826-300-300. Des sujets ce matin, on va revenir sur la laïcité à l'école et on va revenir sur ce débat plutôt très tendu entre Bruno Le Maire et Éric Zemmour.
Oui,
et on parlera Europe.
L'Europe et Macron. Parce que le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, puisqu'il va prendre la présidence, enfin, la présidence va être assurée par la France pendant 6 mois à partir du mois de janvier. D'ailleurs, c'est ambigu, hein, puisqu'il y a l'élection présidentielle et tout. On va en parler, en fait, dans un instant, avec vous, Philippe Bilger, Thierry Guerrier, et vous, au 0826-300-300. Et puis, d'ailleurs, peut-être qu'il y aura un mot de notre invité tout à l'heure de 9h15, Christophe Bourseiller. Mais avant ça, évidemment, il y a ces sujets quand même qui font parler, la laïcité. Je sais que vous appelez déjà au 0826-300-300, avec ce rapport, en fait, d'hier. Et puis, c'était la journée. Et puis, il y a eu aussi, alors certains qui ont regardé hier soir, le maire Zemmour, qui était en débat sur France 2. Qui l'a vu ? Elisabeth, un mot.
Oui. Alors moi, je dois dire, j'ai été totalement stupéfaite et scandalisée par la façon dont cette émission a été arbitrée. Ces journalistes payés par nos impôts, oui, ne cessaient, si vous voulez, de couper la parole à Éric Zemmour, alors qu'au moment du débat, donc on n'arrivait pas à l'entendre au bout d'un raisonnement sur plein de sujets. Moi, vraiment, je voulais savoir ce qu'il allait dire. Eh bien non, il le coupait. Pendant le débat avec Bruno Le Maire, dès que Bruno Le Maire faisait une sorte de formule, ils avaient un petit sourire narquois et satisfait. C'était, mais si les matchs de foot étaient arbitrés comme ça, ils se termineraient tous en pugilat. Alors moi, je dis, j'en ai ras-le-bol de payer les salaires de ces gens qui affichent leur idéologie, puis leurs petits airs contents d'eux. Enfin, c'était, et je dois dire que moi, je voudrais savoir dans quel magasin Éric Zemmour achète son calme, ça pourrait me servir.
Pourtant, on l'a entendu un peu excité, énervé à quelques reprises, hein.
Moi, écoutez, franchement, compte tenu de la façon dont il était traité, du fait qu'il était sans cesse interrompu, mais sans cesse, ce qui était assez frustrant pour le téléspectateur, eh bien, je trouve qu'il a été remarquablement calme, alors que, effectivement, il s'était déjà, par exemple, honnêtement, l'interview de TF1, à côté, était un modèle de fair-play journalistique. Non, mais là, Léa Salamé, là, son collègue qui faisait des petits rictus, qui avait l'air tout content de lui, mais c'était honteux.
Bon, pour vous, Thierry Guerrier, vous avez trouvé que c'était
écoutez,
à ce point
Sincèrement, je n'aime pas Éric Zemmour, que je trouve homophobe, manipulateur de l'histoire, misogyne, mais je dois dire qu'Elisabeth a raison. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça. C'est lui rendre service, en plus. Du point de vue de ceux qui considèrent qu'il lui faut une adversité de talent, qui aille sur les arguments de fond, eh bien, cette espèce d'entre-soi de bobo, comme vous dites, financé par le service public et donc par nos impôts, finalement, fait d'Éric Zemmour une victime. Et donc, c'est desservir leur propre souhait. Non, c'est pas sérieux. Malheureusement, je suis obligé de tomber d'accord avec Elisabeth ce matin.
Ah bah dites donc, on a l'impression que...
elle a raison. C'est pas un comportement.
Et Philippe Bilger, un mot de commentaire, mon cher Philippe.
Mon cher Patrick, Cécile, Elisabeth et Thierry, je crains de favoriser le consensus.
Bon.
Parce que j'ai trouvé que l'organisation du débat était incroyablement orientée pour réduire la parole d'Éric Zemmour, la contredire ou même l'éradiquer. Je ne supporte ce journalisme qui est complice d'un invité contre l'autre. Et un exemple très rapide, à un moment donné, Bruno Le Maire est traité par Éric Zemmour d'employé de la communauté européenne, il ne réagit pas, et Léa Salamé, on l'entend dire, mais vous ne réagissez pas, c'était scandaleux derrière cette apparente objectivité molle que je déteste. Je ferai une petite distinction tout de même en faveur de Laurent Guimier, qui n'a pas été mauvais ponctuellement, comme Léa Salamé, les
Ah, bon, on ne vous entend plus, cher Philippe.
Il y a dit comme Léa Salamélec.
Oui, oui. Voilà. Allez, 0826-300-300, vos appels
et
également.
Patrick est avec nous ce matin, il nous appelle de l'Ariège. Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Bonjour, bonjour toute l'équipe.
Bon, vous vouliez revenir, vous, sur le sondage et la laïcité, puisque c'était la journée de la laïcité hier, mon cher Patrick,
oui.
C'est ça.
Oui, oui, monsieur Patrick Roger. Oui. Voilà, disons que je suis un petit peu agacé par rapport à l'école.
Oui.
Disons que chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas dans la société, on interpelle l'école.
Oui.
On demande, quelque part, si vous voulez, une phrase d'un pédagogue, elle est fort vieille, qui disait que lorsqu'on demande à l'école de rétablir des valeurs ou un système de pensée qui est nié par la société, ça n'est pas rétablir un équilibre, c'est exacerber une contradiction.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Je voudrais qu'on laisse l'école tout simplement se souvenir que l'école elle est là pour enseigner des savoirs fondamentaux qui partent en lambeaux année après année. Et si on veut vraiment, je dirais, aider l'école, il faudrait qu'on, et sur le domaine de la laïcité, à mon humble avis d'ancien chef d'établissement retraité, il faudrait qu'on aide les enseignants, et ça peut se faire au quotidien, l'établissement scolaire, et là j'interpelle mes anciens collègues, pour que les professeurs d'histoire-géographie, de lettres, de langues et d'autres puissent, je dirais, traiter le programme comme ils l'entendent eux et non pas comme veulent que l'entendent leurs élèves. Voilà.
Ouais.
Et si on veut parler d'exemplarité par rapport à l'école, pour que ce soit vraiment exemplaire, pour que ça puisse être exemplaire, plutôt que d'interroger l'école, on pourrait aussi interroger, je dirais, certaines hommes politiques locaux qui ne se gênent pas dans toutes les compromissions. Quand un élève vit dans ce type de commune, comment voulez-vous ensuite que l'école puisse agir? Compliqué. Impossible.
Oui. Non, mais c'est vrai, l'école ne peut pas tout pour ça, bien sûr. Quoi. On a tendance à trop se reposer aujourd'hui pour toutes ces questions, évidemment, de laïcité, de valeurs républicaines. Elle est là pour ça, mais aujourd'hui, on lui demande beaucoup, bien sûr.
Je serai encore un peu plus féroce que vous. J'ai presque envie de vous dire que l'école sert d'alibi.
Oui. Ouais.
Voilà.
C'est possible. En tout cas, bonne réflexion, hein, Patrick, qui suscite des réactions. Elisabeth Lévy, Philippe Bilger et Thierry Guerrier, et puis vous aussi, oui. Au 0826-300-300. J'attends vos appels sur cette question. Ouais. Elisabeth,
oui. Ouais. Oui, vous avez raison. Peut-être que on demande beaucoup à l'école. En même temps, sur cette question de la laïcité, moi j'ai écouté Yanis Roder tout à l'heure avec attention. Ça fait quand même, si vous voulez, la laïcité, c'est un élément de notre histoire. Et effectivement, c'est aussi à l'école de la transmettre et de l'expliquer, parce que la laïcité, c'est pas simplement un code juridique. C'est un état d'esprit, c'est une histoire, la loi de 1905. Donc, ça fait tout de même partie des missions de l'école. C'est quand même là le premier lieu où elle doit être en quelque sorte mise en pratique.
Ouais.
Puisque par définition, l'école étant supposée être un sanctuaire à l'abri un peu des idéologies de ce qui se passe dans la société, c'est en quelque sorte une mise en œuvre magistrale de la laïcité.
Ouais. Bon, allez, on va poursuivre dans un instant avec vous et on reviendra, si vous voulez en rajouter évidemment sur ce sujet, vous êtes les bienvenus.
Bien sûr.
Et puis on parlera aussi de Macron et l'Europe. Et puis ensuite, on s'intéressera à un sujet qui est très actuel. On reviendra sur l'histoire et la période de l'après-guerre avec des zones sombres. C'est Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre 44-54 avec Christophe Bourseiller. Une enquête très, très fouillée avec, il a eu accès à certains documents inédits.
Il était allé même sur place et on en parlera dans un instant avec lui. C'est 8h58, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, Emmanuel Macron et l'Europe, on en parle ce matin avec nos éditorialistes, avec Philippe Bilger et Thierry Guerrier. Et dans un instant, Christophe Bourseiller sera avec nous pour son livre « Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre 1944-1954 ».
Oui, alors Philippe Bilger, comment vous avez suivi justement Emmanuel Macron et l'Europe, son discours hier? Qu'est-ce qui vous a marqué ou pas justement dans ce discours?
Eh bien, Patrick, je l'ai suivi... le plus attentivement que je pouvais. D'abord, il faut lui reconnaître ce qui est infiniment rare chez lui, une constance qui n'a jamais varié sur le projet européen. Ouais. Il a toujours été un Européen convaincu et il faut le créditer de cela à partir du moment où on y croit. Deuxième élément, il prend un risque parce qu'évidemment, il développe une vision pour aller vite, enthousiaste et lyrique de l'Europe, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que le sentiment majoritaire français n'est pas sur la même onde. Troisième élément, bien sûr, on dit qu'il va avoir une visibilité extraordinaire pour l'élection présidentielle, mais je ne suis pas sûr que ça ne gêne pas un petit peu certains de ses partenaires européens qui vont ne pas savoir si c'est le candidat qui parle ou si c'est le président officiel de l'Europe. Et dernier élément, il faut bien voir que même en France, les citoyens, à tort ou à raison, auront pu avoir l'impression de voir un président en majesté se détourner de ce qui fait le fond de leur vie et de ce qui va profondément les mobiliser pour l'élection de 2022. Donc, une constance chez lui, un courage, mais un très grand risque.
Oui, absolument. Alors, c'est la question qu'on pose aussi. Hein, est-ce que cette présidence est un atout, un inconvénient ou sans avis? Vous dites que c'est un inconvénient à 58%, un atout à 13% et sans avis à 30%. Il y a Villeneuve, par exemple, qui nous dit que c'est un atout inadmissible dans le cadre de la campagne électorale puisque Macron va bénéficier d'une couverture médiatique de niveau international hors compte électoraux, et c'est vrai que dès qu'il abordera toutes ces questions, ben, ce ne sera pas décompté dans les temps de parole. Et il dit la présidence de l'Union européenne aurait dû être reportée, la présidence en tout cas pour la France. Thierry Garrier, est-ce que il y a ce sentiment?
Deux choses sur ce point. D'abord, je pense que ce n'est pas forcément bon pour Emmanuel Macron de saturer les écrans comme il le fera de fait au moment du printemps, puisqu'il sera à la fois président du Conseil de l'Union européenne, en effet, mais aussi candidat. Et donc, à force, ça peut engendrer une lassitude qui finirait par se retourner contre lui. N'oubliez pas ce qui a été... Il peut y avoir un syndrome Giscard pour Emmanuel Macron à ce moment-là, et peut-être même, si elle est au second tour avec Valérie Pécresse, une difficulté pour lui à éviter une vague anti-Macron qui se liguerait autour de la candidate Pécresse. Ça, c'est une possibilité. Oui. La deuxième chose, c'est que, écoutez, la présidence française de l'Union européenne, c'est tous les 14 ans. Le repousser de 6 mois, vous pouvez me dire, à ce prix-là, ça n'est pas très important. Mais non, mais si précisément. Parce que c'est un moment stratégique. Qu'est-ce que pense... On peut penser ce qu'on veut de l'Europe. Mais qu'est-ce que pense Emmanuel Macron? La question, c'est la France à 10-30 ans. Est-ce qu'elle veut rester une puissance? Veut continuer... permettez-moi. Est-ce qu'elle veut continuer à compter dans le concert international ou non? Lui pense que oui, lui le souhaite, mais surtout, il considère que ça ne peut se faire, comme les autres puissances européennes d'ailleurs, que ça ne peut se faire qu'à un seul prix, celui d'une Union européenne qui renforce, qui crée la force. Voilà. Il y a toute une série de dossiers.
On va voir dans le factuel avec les dossiers, justement. Non, mais on peut être d'accord ou pas d'accord. Voilà. Sauf que le gros problème, quand même, permettez-moi, mais le gros problème, c'est qu'il y a une campagne présidentielle, effectivement, en France, qui va occuper, en fait, 4 mois. La campagne, il va être en campagne. Et s'il y a une crise européenne, est-ce qu'il peut s'occuper, en fait, de cette crise européenne alors que lui-même va être en campagne? Deuxième chose, la présidence, elle est de 6 mois. Et en plein milieu, il y a donc une élection qui peut changer. Vous imaginez, donc il va falloir rechanger et si jamais il y a quelqu'un qui lui succède, que la personne s'en occupe en fait pendant les 2 mois suivants. Non, franchement, je pense que, évidemment, il a voulu garder en fait ça, on lui avait proposé de changer, mais c'est quand même
c'est périlleux. C'est l'argument de son adversaire républicain.
Non mais là c'est pas qu'un argument politique, c'est sûr quand même.
Je crois que oui, crois que ce n'est qu'un argument politicien.
Mais après il y a de la logistique derrière.
C'est une affaire de continuité dans les dossiers. Ouais. Il y a des dossiers
Qu'est-ce qui se passera?
Il se passera que la France a une continuité dans sa parole.
C'est la théorie.
La réalité, c'est qu'il y a un travail de fond sur des dossiers stratégiques que vous allez évoquer et dont il estime qu'il fallait les mener au bout.
Avec vous, donc Philippe Bilger.
Juste un petit mot, il ne faut pas oublier un élément, c'est que vraisemblablement Emmanuel Macron aura pour moment l'intelligence cynique de se servir un peu de l'Europe pour jeter des messages en pleine campagne présidentielle française. Il s'en servira un petit peu.
C'est à double tranchant, hein, parce que évidemment ça peut le servir comme ça peut le desservir. Dans le factuel, alors justement, qu'est-ce qu'il a dit hier, Adeline Duvoux? Il veut notamment une Europe plus souveraine. Hein.
Oui, il veut renforcer la souveraineté européenne en soutien à celle nationale pour affronter les crises sanitaires, climatiques, mais aussi la concurrence de la Chine et des États-Unis et la nécessité de redémarrer l'économie après la pandémie. Le sujet migratoire est également sur le tapis. Il faut forger une Europe capable de maîtriser ses frontières et éviter les drames que nous avons vécus, rappelle le président. Ça passe par une réforme de l'espace Schengen. Emmanuel Macron veut aussi repenser le cadre budgétaire européen défini par les critères de Maastricht. Il estime que la question du pour ou contre le 3% de déficit est dépassée.
Ça c'est quand même une révolution considérable. Même ici depuis, considérable quoi.
Du côté de l'environnement, le chef de l'État veut faire avancer les négociations sur la mise en place d'un instrument européen de lutte contre la déforestation importée. Côté économique, il y a l'idée de refonder un New Deal avec l'Afrique et mettre en place une politique de réengagement et de réinvestissement des Balkans. Et enfin, Macron veut mettre en place un service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 ans.
Bon, un mot de commentaire, Christophe Bourteillet. Bourteillet.
Toujours un
peu. J'allais dire Bouteillet, bah voilà,
c'est Cécile. Donc hommage à Pierre Bouteillet qui nous a quittés il y a plusieurs années. Vous savez, l'Europe, c'est toujours pour Macron une sorte de cheval de bataille. Donc je pense qu'il a eu l'intention de s'en servir dans la présidentielle, d'autant plus que les candidats populistes, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont anti-européens. Donc ça tombe bien. Donc s'il veut se délimiter par rapport à eux, évidemment, c'est plutôt bien. Et par rapport à Pécresse, c'est aussi un atout, puisque Pécresse n'aura pas l'avantage comme lui d'être quelqu'un qui est aux manettes déjà. Et de toute façon, le président a toujours un petit avantage dans les campagnes électorales. C'est pas pour ça qu'il est réélu, c'est le fait qu'il est président, qui peut jouer sur les deux tableaux jusqu'au dernier moment, et qu'en général il se lance dans la campagne le dernier ou parmi les derniers, parce qu'il sait qu'il peut jouer la montre. Mais vous savez, Sarkozy n'a pas été réélu pour autant, il avait les mêmes avantages il y a quelques années.
L'Europe
est suffisamment est un sujet suffisamment sérieux pour, évidemment, quand on prend la présidence, être entièrement consacré en fait à ça. Et là, c'est factuel. Hein. Il ne pourra pas consacrer en fait, toute son énergie en fait, à ça, puisqu'il sera engagé dans une campagne électorale et qu'il ne sait pas s'il pourra être réélu. Honnêtement, ils n'ont pas découvert il y a quelques mois qu'il y avait des élections, effectivement, en France. Sur l'agenda européen, bousculé.
Crois d'autant plus que, précisément, le président de la République a intégré l'idée qu'il pouvait être battu. Ouais. Et à cet égard, veut au moins, jusqu'à la fin de son mandat, mener la politique qu'il considère comme étant essentielle pour la France, le temps qu'il sera aux manettes. Il y a une cohérence, reconnaissons-lui cela, et sa passion pour l'Europe.
Mais une incohérence par rapport au calendrier, ça c'est
clair. Il ne faut pas oublier non plus, c'est un détail peut-être très sordide, mais ses partenaires européens sont relativement réticents à être mené de bride abattue comme il va le faire. Les surcharger de travail et mon Dieu, ça peut être un critère pas décisif bien sûr, mais dans une petite opposition sourde à ce qu'il veut avoir de majesté européenne.
Merci. Dernier mot.
La grande idée, c'est si les puissances qu'il reste encore relatives, l'Allemagne, la France et pourquoi pas l'Espagne, l'Italie, puisque la Grande-Bretagne ne figure plus, ne veulent pas être déclassées dans le monde de demain, le monde de la Chine et de l'Asie. Le monde des GAFAM, le monde des États-Unis, alors elles doivent se ressouder pour essayer de retrouver une souveraineté à leurs frontières, sur l'économie, face aux exportateurs, par exemple américains dans l'agriculture, mais aussi sur la défense. Imaginer, anticiper l'idée qu'il va falloir qu'elles se construisent une défense propre. Voilà les idées clés. Et il y a urgence aujourd'hui.
Ça pouvait se faire des mois derniers.
Urgence, ça ne peut pas être dans 6 mois.
Encore une fois, cet agenda pouvait être bousculé.
Nous ne sommes pas d'accord là-dessus.
C'est pas logique. Il n'y a aucune logique en fait et cohérence là-dedans. Mais c'est pour ça, bien sûr, que l'Europe avait interrogé Emmanuel Macron en lui disant il y a une il y a une élection chez vous, c'est vrai que ça ne correspond pas, donc est-ce que vous voulez qu'on change ? Et il a dit, non, je ne change pas.
Parce que
donc
lui,
ça n'avait pas échappé à tout le monde. Voilà, bon, allez, on continue dans un instant.
Ouais.
On va remonter un peu l'histoire.
Ouais,
l'histoire qui est aussi un peu utilisée, parfois exploitée en ce moment. Ça, on va y revenir avec Christophe Bourseiller, avec son enquête qui est exceptionnelle. Il faut un peu de temps pour bien la lire, bien l'intégrer, parce qu'il y a des noms, il y a tellement d'infos, mais c'est particulièrement minutieux, ça va plaire à mon ami Philippe.
Et puis Bilger. Ça résonne aujourd'hui, même en 2021.
Ça résonne beaucoup,
absolument. On en parlera dans quelques instants, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, on va revenir sur le retour sur la trajectoire de l'après-collaboration avec les pires, il est allé chercher les pires, hein, Christophe
oui,
Bourseiller,
fait, oui.
Bienvenue, auteur de Ombre invécue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre 44-54 aux éditions Perrin.
Oui, alors c'est ça, vous êtes allé chercher les collabos, mais les vrais collabos.
Oui,
quoi.
Les vrais collabos, parce qu'en fait, vu de loin, on fait une espèce de mélange de tous les collabos, et en fait, il y avait...
C'est pas Vichy, c'est au-dessus.
Non, voilà, il y avait deux ensembles, il y avait Vichy, et puis il y avait pire que Vichy, qui étaient les collabos qui étaient à Paris, et moi, c'est ces collabos-là que je suis allé chercher, c'est-à-dire les vrais nazis, parce que vous savez, Vichy, ouais. C'était une espèce de bouillon de culture où il y avait un peu de tout. Ouais. Il y avait des gens qui étaient partisans d'un ordre nouveau, national-catholique, inspiré un peu, on pourrait dire, du salazarisme, ou de ce qu'on a vu avec le franquisme, si vous voulez, qui était autour du maréchal Pétain. Il y avait beaucoup de collabos alimentaires à Vichy, qui étaient des gens qui disaient, bon écoutez, l'Allemagne va gagner, c'est sûr, c'est sûr, pour 1000 ans, ils sont là pour 1000 ans, il faut qu'on s'inscrive dans cette Europe nouvelle, le monde nouveau, ça c'est Pierre Laval, et puis il y a même quelques résistants, des vichistos résistants à Vichy. Et à Paris, il y a les vrais nazis. Il y a ceux qui disent, il faut soutenir Hitler a raison, son programme est génial, d'ailleurs il est un peu mou et il faut le durcir.
Ouais.
Et donc je me suis intéressé moi à ces gens-là, en disant c'est incroyable parce que ces gens-là ont réussi pour beaucoup d'entre eux à survivre.
Alors,
après la Seconde Guerre mondiale.
C'est le Parti populaire français.
De Jacques Doriot.
Voilà, c'est ça. C'est le Rassemblement national populaire.
De Marcel Déat.
Et les cagoulards.
Alors les cagoulards qui sont extraordinaires. Les cagoulards, oui, mais ils sont très intéressants parce que les cagoulards nous montrent le monde nouveau. C'est-à-dire que les cagoulards, c'est des gens qui sont. Alors, je résume très, très vite. Hein. La cagoule a été fondée en 1934. C'était un mouvement putschiste, fasciste d'extrême droite qui préparait véritablement un putsch, une révolution nationaliste avec des moyens considérables parce que ils étaient financés par un grand nombre d'industriels, vraiment un grand nombre d'industriels,
oui.
De personnalités très connues. Alors il y avait bien sûr Eugène Schueller, le PDG de L'Oréal, mais il y avait aussi le PDG de Michelin. Enfin, il y avait vraiment un monde fou. Oui, Pommery, les champagnes Pommery. Il y avait un monde fou derrière les cagoulards. Arrive la guerre et là les cagoulards se réunissent à Paris au moment où les Allemands rentrent dans Paris et là il décide de se répartir en trois groupes. Ça, c'est passionnant. Donc, il y a un groupe qui va à Vichy, à côté du maréchal Pétain, qui va durcir, si possible, le maréchal Pétain. Il y a un groupe qui reste à Paris, avec le chef de la cagoule, Eugène Deloncle, au plus près des Allemands. Ils vont travailler pour les services secrets allemands. Et il y a un groupe qui part à Londres, au plus près du général de Gaulle. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'à la Libération, vous avez des cagoulards dits gaullistes qui vont blanchir les cagoulards qui étaient nazis.
Alors, avant de revenir précisément sur ce qu'ils sont devenus et qui ils étaient, d'ailleurs aussi Jacques Doriot, qui était ancien
communiste, bien sûr,
Marcel Déat, qui lui était socialiste bien sûr, et qui sont retrouvés dans des mouvements national-socialistes. Avant de revenir sur eux, est-ce que, dans le débat actuel, par rapport à Pétain, est-ce que ces gens-là, finalement, l'ont débordé, dépassé, influencé, et Pétain n'était pas dans ce schéma, en fait, initial?
Non, Pétain était un ennemi de la démocratie. Pétain voulait clairement établir un ordre nouveau national-catholique. Donc Pétain n'était pas un défenseur de la République et des valeurs de la République, c'est évident. Mais par exemple, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe en 1940, fin 40, c'est que vous avez le ministre de l'Intérieur de Pétain, qui s'appelle Raphaël Alibert, qui est un cagoulard, et Raphaël Alibert va instaurer des lois anti-juives plus dures que celles que les Allemands demandent.
Oui, c'est ça.
On est plus dur, vous voyez.
Dans l'entourage de Pétain, et puis avec toutes ces forces-là qui s'étaient déjà mobilisées depuis les années, milieu des années 30, quand on arrive au pouvoir avec Pétain, On le force quasiment un peu, c'est ça, à adopter toutes ces mesures.
Non,
aussi.
C'est pas vrai, non. Parce que Pétain, en fait, c'était quelqu'un qui sa ligne politique, c'était le silence. Ouais. C'est-à-dire que Pétain ne disait rien et Pétain clignait de l'œil ou avait un tic. Oui, et à ce moment-là, on interprétait le tic parce que Pétain, c'était la politique du silence. Alors évidemment, tout le monde pouvait interpréter les silences de Pétain. Après la guerre, Pétain, lors de son procès, a expliqué que c'était des silences de résistants. Enfin, ça pouvait être aussi des silences de connivence avec l'occupant. Et il faut bien voir qu'en réalité, Vichy, c'était très désordonné. C'est-à-dire que vous aviez un comité sur les questions juives, qui recensait les juifs, qui organisait la déportation. Et puis, vous aviez des résistants planqués. Vous aviez un mélange très, très complexe de gens. C'était un peu le bouillon de culture. Ce qui fait qu'on ressort de Vichy une image un peu brouillée, en fin de compte. Et je peux comprendre que des gens comme Zemmour, par exemple, pour ne pas le citer, prennent parti de ça pour faire avancer ses idées.
Oui,
mais en réalité, il ne prend qu'un aspect tout petit de Vichy, qui était le fait qu'il y avait à Vichy effectivement quelques vichisto-résistants, mais il y avait une grande majorité qui était partisan de l'alliance avec l'Allemagne.
Oui, mais c'est ça. Comment on peut expliquer justement, alors pour revenir à Doriot, qui était communiste, ou pour revenir à Déa, qui était socialiste, qu'ils rejoignent en fait des mouvements qui sont beaucoup plus, forts, qui sont anti-juifs.
Mais vous savez, Patrick, aujourd'hui, on dit que droite et gauche, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Qu'on ne sait plus finalement, les repères abolissent. Mais ça date de cette époque-là. C'est une époque où vous avez des communistes qui disent finalement Hitler c'est bien. C'est une époque où vous avez des socialistes qui disent mais finalement oui c'est vrai c'est le monde nouveau, il faut qu'on s'insère dans le monde nouveau. C'est un moment incroyable. Vous savez quand
Marcel Déa... Oui, il y avait le monde nouveau, hein, le terme déjà était
là. Monde nouveau. Quand Marcel Déa a créé le Rassemblement National Populaire, il disait qu'il voulait incarner, entre guillemets, mais c'est vrai, c'est lui qui le dit, la gauche de la collaboration. Alors qu'il était pro-nazi, qu'il passait des... son groupe projetait le Juif Sus, un film nazi très célèbre, antisémite. Enfin, il était, mais vous voyez, c'était le pur hitlérien et il disait je suis de gauche. Ouais. Vous voyez, et à partir de là, vous avez eu une espèce de brouillage des cartes pendant la guerre. Vous aviez des gens qui se disaient de gauche et qui collaboraient et des gens qui se disaient de droite et qui résistaient. Ouais. Et donc, vous aviez ce mélange terrible et cet empoisonnement de l'air. Les collabos qui ont survécu ont réussi à le maintenir.
Ce qui est fou, je vous coupe deux secondes parce que vous dites que finalement, ils sont très peu nombreux, mais ils ont une influence incroyable.
Mais vous savez, Cécile, ça, c'est propre à tous les extrémistes. D'ailleurs, j'étudie, comme vous le savez, les mouvements extrémistes depuis très longtemps.
De droite comme de gauche.
Et en fait, les extrémistes n'ont pas besoin d'être nombreux pour peser sur la société. Il suffit d'être malin. Vous savez, comme disait Archimède, qu'on me donne un point d'appui, je soulèverai le monde. Dès lors que vous êtes capable de lancer des campagnes sur les réseaux sociaux, dès lors que vous êtes capable d'infiltrer des partis politiques, dès lors que vous avez cette intelligence tactique, bah vous avez de l'influence, même si vous êtes une quinzaine de personnes. Oui. Vous voyez, et en fait, c'est ça qui s'est passé après la guerre.
Thierry Guerrier.
Oui, Thierry.
Qui était l'interlocuteur allemand de ces extrêmes collabos, en quelque sorte, notamment à Paris? C'était l'ambassadeur Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, ou est-ce qu'ils avaient d'autres interlocuteurs beaucoup plus pervers, pernicieux?
En réalité, Otto Abetz a été leur interlocuteur au tout début, et assez rapidement, ils ont trouvé un protecteur et un interlocuteur dans Otto Reinebeck et dans les SS. Et ils sont devenus les enfants des SS. Vous savez, il y avait plusieurs... l'occupation allemande, il y avait trois sources d'influence. Hein. Vous aviez la Wehrmacht, donc l'armée allemande, qui, elle, à un moment donné, était plutôt critique vis-à-vis d'Hitler, hein, donc qui n'était pas une source très fiable pour les nazis. Vous aviez la ligne officielle, le représentant du gouvernement allemand en France,
Otto Abetz.
Bon, voilà. Et puis, vous aviez les SS, et les SS, c'était la colonne vertébrale du nazisme, c'était la police politique, si vous voulez. Et c'est les SS qui ont financé Marcel Déa,
collaborationnistes, comment ils ont fait pour survivre après? Quelle influence ils ont eue par la suite? C'est ce qu'on va voir dans la période jusqu'à les années 50, 54 à peu près.
Et on parlera de la construction de l'Europe dans laquelle ils se sont investis aussi dans un instant.
Christophe Bonseiller, 0826, 300, 300,
si vous voulez bien entendu poser vos questions. On revient dans un instant, il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h32, on vous explique ce qu'a été le destin des pires collaborationnistes une fois le nazisme disparu. On en parle ce matin avec Christophe Bourseiller. Auteur de ce livre, Ombre invaincue, c'est un très joli cadeau de Noël, la survie de la collaboration de l'après-guerre en France entre 44 et 54 aux éditions Perrin.
Bah oui,
c'est un gros bouquin, mais
qu'est-ce,
au moins vous saurez
qu'est-ce
tout.
Qui s'est passé. Vous êtes allé enquêter un peu partout hein, sur le terrain, ah, et vous avez eu accès à des archives. Des archives un peu inédites.
Ah oui, très
aussi.
Rare. J'ai demandé des dérogations pour avoir accès à de nombreuses archives
qu'est-ce
sur,
qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que c'est vrai qu'on voulait tourner la page aussi de la guerre après
45. Alors, en fait, il y en a quand même beaucoup qui se sont fait avoir. Il y a eu 11 000 morts dans le cadre de l'épuration, ce qu'on a appelé l'épuration entre 1944 et 1946 à peu près. Donc,
dont Jacques Doriot aidait à...
Alors, Doriot... Alors non, justement, c'est ça qui est extraordinaire. Doriot a été mystérieusement abattu par un avion allié en février 45 en uniforme SS en Allemagne.
Sur la route.
Et Déa a réussi à s'enfuir.
Ah,
Déa est un cas unique de chef collabo qui a réussi à se cacher et il est mort de sa belle mort, enfin il est mort de maladie, en 1955 dans un monastère à Turin. Et donc ça nous envoie à qui aide et comment ça s'est passé. En fait, déjà en France, si vous vouliez vous en tirer, il fallait vous planquer de 44 à 46. Pourquoi? Parce qu'en 46, il y a eu un phénomène qu'on peut comprendre d'ailleurs, c'est que le président Vincent Auriol a dit, écoutez, faut la réconciliation, il y a un moment, on va pas se battre éternellement, on était tous français, il y en a qui se sont trompés, d'autres non, mais aimons-nous les uns des autres et réconcilions-nous. Et donc à partir de 46, vous avez des lois d'amnistie qui vont se multiplier, qui font qu'en gros, ça devient de moins en moins dangereux d'avoir été collabo, donc faut sortir de l'ombre à partir de 46, en gros, voilà. Alors pour ceux qui étaient... Non, ça c'est plus grave. Ceux qui étaient en Allemagne, qui défendaient le bunker d'Hitler, qui étaient à Sigmaringen, etc. Alors ceux-là, ils ont bénéficié de deux sources. D'abord, je vous en ai parlé fugitivement grâce à Marcel Déa, une partie de l'Église catholique, notamment les monastères. Il y a eu ce qu'on appelait une filière des monastères, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prêtres ou de moines qui étaient mus par un anticommunisme viscéral. Ouais. Et ils se sont dit quand même, les nazis, c'est des anticommunistes, donc il faut les aider. Et donc, ils ont planqué, hébergé les anciens collabos, mais pendant des années, jusque dans les années... On voit bien le cas de Paul Touvier, dans les années 1960, il était toujours planqué dans les monastères, si vous voulez. Ça a été très, très ancien. Deuxième aide, la Croix-Rouge. Alors ça paraît incroyable, mais il faut savoir que le comité international de la Croix-Rouge, pendant la Seconde Guerre mondiale, était dirigé par un monsieur qui était plutôt favorable à l'Axe, à Mussolini et à Hitler. Et qu'est-ce qui s'est passé en 45? C'est que, vous savez, donc c'était la fin de la guerre, et l'Europe s'était devenue une sorte de tumulte incroyable, un désordre inouï. Pourquoi? Parce que les camps se sont ouverts. Donc vous aviez bien sûr les déportés des camps de concentration, bien sûr, mais aussi les camps de prisonniers de guerre, les requis du service du travail obligatoire. Tout ça faisait des centaines de milliers de personnes qui affluaient dans les gares, et tous ces gens, ces malheureux qui sortaient des camps n'avaient pas de papier, évidemment, il n'y avait rien. Et donc, qu'est-ce que faisait la Croix-Rouge? Elle délivrait des passeports provisoires. Elle vous demandait comment vous vous appelez, je m'appelle Roger, Patrick, on va inverser.
Merci.
Patrick, et hop, c'est bon. Allez, vous êtes
sans
travailleur volontaire,
tri, en fait.
Sans faire le tri. Et beaucoup d'anciens nazis, avec la complicité d'employés de la Croix-Rouge, se sont fait passer pour d'anciens déportés. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se planquer. Alors, où allaient-ils? L'objectif, c'était, en gros, il y avait deux endroits sûrs où il fallait aller. C'était l'Espagne de Franco qui les accueillait, et mieux encore, l'Argentine. Ouais. Le problème, c'est parce que Juan Perón était très favorable à Hitler, et vraiment, l'Argentine était la terre d'accueil des nazis, et vous arriviez en Argentine, et ensuite vous pouviez vous dispatcher sur tout le continent latino-américain, mais c'était l'Argentine. Mais il fallait y arriver en Argentine, et en fait, le seul moyen d'aller en Argentine, en gros, c'était de s'embarquer sur le port de Gênes. Et donc, les nazis passaient par l'Italie, se cachaient en Italie dans des monastères ou dans des foyers de la Croix-Rouge, en essayant de s'embarquer sur les cargos, les navires qui partaient vers le continent latino-américain. Donc, vous voyez, ça a été... Et alors, ils ont bénéficié d'une aide très importante. Ça a été l'aide d'un certain nombre de mécènes, et notamment le plus gros mécène qui a aidé les collabos, c'était Eugène Schueller, le père de Liliane Bettencourt, qui dirigeait le groupe L'Oréal. Mmh. Et beaucoup d'anciens collabos, parmi les plus durs, Jacques Corrèze, surnommé Labuche, qui vous expliquait comment tuer un homme. Vous aviez Fillol, qui lui avait tué plus de 100 personnes. Enfin, vraiment des criminels incroyables, sont devenus des dirigeants de L'Oréal sur le continent américain. américain, bien sûr, sur le continent latino-américain. Oui. Et ça a été une aide extrêmement puissante.
Et puis certains qui, du coup, ont eu de l'influence après pour la construction, la reconstruction de l'après, y compris même de l'Europe.
Alors là, Patrick, vous avez raison. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Du coup, ils sont sauvés. Ouais. Ils reviennent, ils sont planqués, voilà. Mais en même temps, il faut qu'ils soient discrets. Et en même temps, leur idéal a échoué, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Et ça, c'est les cagoulards principalement. Ils vont se dire, finalement, on n'a pas réussi à faire la révolution nazie qu'on voulait faire, mais on peut peut-être extrémiser la société. Mmh. Et donc, ils vont s'infiltrer dans les partis du centre, de gauche, ils vont s'infiltrer dans les partis modérés, dans les associations, et ils vont peser autant qu'ils pourront. Alors, il y a un homme très important qui va jouer un rôle, qui s'appelle Georges Albertini. Oui. Georges Albertini est l'ancien secrétaire général du RNP de Marcel Déat. Il a vraiment un des états d'armes très forts, si vous voulez. Et Georges Albertini va devenir une éminence grise de l'après-guerre. Il va devenir notamment un homme des Américains, il faut dire un homme de la CIA. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que Georges Albertini va distribuer les subsides, les dollars, en essayant de monter un peu partout en Europe des gauches anticommunistes. Pourquoi ? Parce que la CIA a fait un diagnostic assez intéressant à la fin de la guerre, c'est Irving Brown qui a fait ce diagnostic, qui consistait à dire, finalement, nous les Américains, on veut lutter contre le communisme, le bloc soviétique, si on aide des partis de droite, ça sert à rien, puisqu'ils sont déjà anticommunistes. Donc il vaut mieux aider des mouvements de gauche anticommunistes. Et donc ils vont aider des syndicats, ils vont financer en partie Force Ouvrière, ils vont jouer un rôle occulte, si vous voulez, du côté du Parti Socialiste, des clubs socialistes de l'époque, voire de l'extrême-gauche, et c'est Albertini qui sera le maître d'œuvre de cette politique discrète. Albertini qui, jusqu'à sa mort, va peser sur la Ve République.
Et comment aujourd'hui ça peut résonner en 2021 ? Pourquoi il y a cette montée radicale depuis quelques années avant on était plutôt assez obscur, enfin c'était assez obscur et tout à coup ça revient.
Et en complément peut-être de la question de Cécile, si je peux me permettre, est-ce qu'ils ont des héritiers aujourd'hui dans les nouvelles générations ?
Bah écoutez, moi je crois que si vous voulez, pour bien comprendre l'influence de ces collaborationnistes, il ne faut pas regarder du côté de l'extrême droite. Alors l'extrême droite, oui, ils ont joué un rôle très important. Ils étaient à la naissance du Front National de Jean-Marie Le Pen. Ils ont joué un rôle dans la reconstruction de l'extrême droite dans l'après-guerre, bien sûr. Mais l'idée très forte qu'ils ont mise en avant, c'était l'idée de cette extrémisation de la société. Donc vous les retrouvez plutôt leurs héritiers du côté de ceux qui disent, nous on n'est ni droite ni gauche. Ça n'a plus de sens. On invente autre chose. Tout ce populisme divers et diffus, c'est le véritable héritage de ces gens-là qui eux disaient
droite et ni droite ni gauche, c'est la Macronie. Alors,
oui, donc, mais là, c'est pas tout à fait la même chose, parce que Macron, c'est autre chose. Macron est quelqu'un qui a repris à son compte un discours populiste pour être élu en 2017. Souvenez-vous, son livre s'appelait Révolution. Pour en réalité retourner ce populisme au service, on pourrait dire, du centrisme. Donc évidemment, là, on est dans un cas un peu particulier.
Mais est-ce qu'il y a une instrumentalisation là, forte avec, évidemment, de l'histoire ? Bon, c'est Éric Zemmour qui l'a mis en fait sur la table, avec peut-être pour les Français des certaines réalités qu'on avait un peu oubliées quoi également.
Vous savez Patrick, au plus fort de la collaboration, c'est-à-dire en 42-43, vous regardez la France, vous avez 100 000 collabos, c'est beaucoup, 100 000 collabos, et en face vous avez 100 000 résistants. Faut dire les choses. C'est beau, c'est bien aussi, 100 000 résistants. Et puis, vous avez, alors, 30 ou 40 millions de Français qui regardent. Et voilà. C'est ça, ce qui s'est passé en réalité. Donc, si vous voulez, après, à la fin de la guerre, tout le monde a dit, j'ai été résistant. Évidemment, plus personne a dit, j'ai été collabo. Même les collabos disaient, j'ai été résistant. Mais en réalité, on peut comprendre cet examen de conscience, parce que le problème, c'est que des millions, des dizaines de millions de Français ont regardé le match.
Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que on en parlait hier, la démocratie est en danger.
Je crois que la démocratie, elle est menacée parce que la démocratie, c'est fragile. Vous savez, d'abord, la démocratie, ça n'existe pas. C'est le pouvoir du peuple. Donc, il y a un horizon démocratique, des formes démocratiques. Mais ces formes démocratiques, si on ne vous les revivifiez pas par un élan, des idées, par des valeurs, ça perd de son sens. Et à ce moment-là, on peut très bien, n'importe quel extrémiste peut très bien se servir de la démocratie pour engager un processus d'extrémisation de la société, comme l'a fait très intelligemment Viktor Orban en Hongrie, par exemple.
Oui, c'est ça. Encore une ou deux questions. Philippe Bilger, une question.
Mon cher Christophe, puisque oui. j'ai la chance de vous connaître, ce que j'aime énormément dans votre vision de cette période tragique, c'est le fait que vous ne vous posez pas forcément justicier moral, mais que vous savez distinguer les nuances de tous ces divers mouvements. Mais est-ce que le ressort principal de ces mouvements à l'origine, quel qu'ait été leur choix initiaux, n'était pas d'abord une détestation absolue du communisme? Alors, et deuxième c'est... élément, et ouais. deuxième élément, pour plus tard, pour aller vite, est-ce qu'au fond, ils n'ont pas été récupérés dans le système officiel, non seulement à cause de leurs manœuvres, mais pas...
Ah, on n'a pas entendu, on a eu un petit souci, oui.
Alors je peux répondre, parce que je n'ai pas entendu la deuxième remarque de Philippe, je le regrette. Ouais. Bah, je crois que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, je crois qu'il y a les deux ressorts fondamentaux de ceux qui vont s'engager derrière Hitler, c'est l'idée d'incarner un monde nouveau en phase avec le XXe siècle, qui est le siècle de la machine. Et leur idée, c'est de dire, finalement, le totalitarisme, c'est le système politique qui correspond à l'essor des machines et au progrès machinique, vous voyez. Ça, c'est la première... le premier mobile. Et le deuxième, c'est le racisme. Parce que l'antisémitisme est incroyable. C'est un antisémitisme extrême. Vous savez, Jacques Doriot, en 1941, dans un congrès à Lyon, dit « Pour les Juifs, il n'y a qu'un seul destin, le camp ». Vous voyez, c'est terrifiant. C'est, je veux dire, ils vont brûler, incendier des synagogues avant même que les Allemands le demandent. Ils devancent, ils vont aider à la rafle du Veldiv, spontanément. Vous voyez ce que je veux dire, ce sont vraiment ce qu'on peut appeler des ordures, avec évidemment des guillemets parce qu'on est très poli. Mais vous voyez, ce sont des gens qui vont très loin. Donc vous avez à la fois le monde nouveau et le racisme. Alors, quant à l'anticommunisme, oui, sauf qu'il soutenait Hitler pendant le pacte germano-soviétique. Oui. Donc, vous voyez, au fond, je crois que l'anticommunisme, il était relatif. En réalité, ils s'en sont servis comme un cheval de bataille à partir de l'attaque en 1941 de la Russie par l'Allemagne nazie. Mais au fond, je crois que vraiment, le modernisme et le racisme, c'est plutôt ça, les deux mamelles, si je puis dire.
Allez. Ombre invaincue, Christophe Bourseiller, c'est aux éditions Perrin, c'est passionnant, on pourrait encore en parler des heures, et on peut passer quelques petites heures justement à lire cet ouvrage. Merci.
À Noël par exemple.
Oui, absolument. Merci d'être venu ce matin. Dans un instant, ça nous concerne tous, mais aussi les enfants.
On a tendance à négliger le petit déjeuner chez les enfants. C'est le combat d'une diététicienne, on en parle avec elle dans quelques instants. Il est 9h45, vous nous appelez, dites-nous ce que vous mangez au petit déjeuner, dites-nous ce que vous donnez à vos enfants. Du salé, du sucré, attention au sucré, à tout de suite.